La Méridienne.
Tout de suite avec nous, on retrouve Jean-François pour une rubrique Nuances du Monde. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et tu nous proposes une rubrique historique comme à ton habitude. De quoi est-ce qu'on
exactement.
Va parler aujourd'hui?
Exactement. Et bien encore d'un 29 mai, on est le 29 mai, donc on va parler d'un 29 mai célèbre, le 29 mai 1453, date à laquelle Constantinople fut prise par les Turcs.
Ok. Voilà.
Donc c'est parti. Donc le 29 mai 1453 est quand même assez célèbre. Nos élèves de seconde le connaissent. Pourquoi? Bah parce que ça, c'est traditionnellement parmi les dates clés de l'histoire occidentale. Ce jour-là, Constantinople tombe aux mains du sultan ottoman Mehmet II. La ville, capitale de l'Empire byzantin et vestige de l'Empire romain, était l'ultime dépositaire de l'Antiquité classique. Elle faisait aussi office du rempart de la chrétienté face à la poussée de l'islam. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est qui étaient ces Ottomans? Les Ottomans n'étaient que l'une de la quinzaine de principautés turkmènes, nées de l'éclatement de l'État turc seldjoukide d'Anatolie à la fin du XIIIe siècle. Et ils étaient vraiment loin quand même de figurer parmi les plus fortes. S'ils ont pu prospérer tandis que les autres s'épuisaient en lutte fratricide, c'est précisément parce qu'ils se sont trouvés face à une proie rendue vulnérable par les séquelles de la quatrième croisade et la mainmise économique de Venise et de Gênes. Donc deuxième question qui vient naturellement, c'est en quoi la quatrième croisade a-t-elle affaibli l'Empire byzantin? Ben, faut déjà comprendre qu'il existe une très forte animosité entre les chrétiens d'Occident, que l'on peut appeler les latins ou les francs, et les chrétiens d'Orient, les byzantins. Les différences religieuses ont abouti au schisme de 1054 entre l'église de Rome et l'église de Constantinople et à des représentations stéréotypées de l'autre. Pour les Byzantins, les Francs n'étaient que de grosses brutes plus proches de barbares que de l'homme civilisé. Pour les Occidentaux, à l'inverse, les Byzantins étaient des hérétiques efféminés. Cette haine débouche sur la quatrième croisade en 1204, où les croisés se détournent de la Terre Sainte pour piller Constantinople. Les Occidentaux occupent ensuite Constantinople pendant 57 ans, de 1204 à 1261. Ils se partagent la quasi-totalité des territoires européens et insulaires de l'Empire byzantin. Alors, subséquemment, la puissance maritime et le pouvoir économique et financier de Venise et de Gênes vont s'imposer et entraîner le lent déclin de Constantinople. L'empereur, qu'on appelle le Basileus en grec, ne possède plus suffisamment de richesses pour combattre ses ennemis. L'apparition de l'artillerie va ensuite lui être fatale. En effet, profitant de l'affaiblissement de leurs voisins, les Turcs traversent le détroit du Bosphore au XIVe siècle et installent leur capitale à Andrinople, qui n'est pas très loin de Constantinople. En 1451, l'Empire ottoman a un nouveau sultan, le jeune Mehmet II. Dès son arrivée sur le trône, il se révèle être un grand stratège qui a de l'ambition. Il entreprend donc de conquérir Constantinople et met toutes les chances de son côté en privant les Byzantins de leurs alliés grâce à la signature de divers traités de paix. Il se bâtit également une importante artillerie, ce qui rendra obsolètes les défenses de Constantinople, ville réduite alors à environ 40 000 habitants et dépourvue d'arrière-pays. Constantinople n'est plus qu'un petit état qui ne dispose de sa défense que de 7000 soldats grecs et puis d'un petit détachement de 2000 étrangers qui sont des Génois, des Vénitiens ou des Catalans. En face, la ville doit affronter environ 150 000 Turcs extrêmement bien préparés. Et le 23 mars 1453, Mehmet II, son armée, met le cap sur Constantinople. Début avril, les troupes turques s'installent aux portes des fortifications de la ville et entreprennent de les faire céder à coups de canon. Mehmet II bénéficie en effet de nouveautés, de gros canons, environ 25 à 50 gros canons, et de centaines de plus petits canons. Ainsi, les pierres et les boulets vont donc fissurer lentement les murailles de la ville. Pourtant, quatre navires chargés de vivres et de munitions envoyés par le pape Nicolas V et par Venise pour soutenir les Byzantins parviennent à passer le blocus maritime imposé par les Turcs. Mais c'est trop peu. Cet épisode montre néanmoins qu'avec davantage d'aide de la part des Occidentaux, Constantinople aurait pu tenir. Mais les Occidentaux ne voulaient pas spécialement aider les Byzantins. Et finalement, au lieu de cela, la pression exercée par les Turcs s'accentue et Constantinople commence à faiblir. Le 23 avril, l'empereur Constantin XI fait un pas vers son adversaire en offrant la paix contre le paiement d'un tribut. Mehmet II n'accepte aucune négociation. Courant mai, l'armée du sultan multiplie les attaques tant sur les portions de la muraille déjà endommagées que sur le plan naval. Lorsque l'assaut final est décidé pour l'aube du 29 mai, Mehmet II peut haranguer ses soldats avec ces paroles. La terre et les bâtiments, les armes et les instruments militaires sont à moi, leur annonça-t-il. Tout le reste, biens et richesses, prisonniers, vêtements et nourriture, sera du butin pour les combattants. L'annonce à cette époque-là n'avait vraiment rien d'exceptionnel, ni d'improvisé. La ville avait refusé de capituler et aucune trêve ou reddition ne devant être signée. C'était donc le droit de conquête qui avait cours. Un droit qui impliquait la réduction en esclavage des habitants. Alors une fois la brèche vraiment ouverte dans les murailles de Constantinople, l'écrasante différence numérique entre assiégés et assiégeants produit son effet et la ville est submergée dès les premières heures du 29 mai. L'empereur, mort en simple combattant à l'intérieur de la basilique de Sainte-Sophie. Son corps ne sera d'ailleurs identifié que plus tard parmi les 4000 autres morts que firent les combats. Les Occidentaux qui arrivent à regagner leur navire peuvent apparier et fuir, tandis que la plupart des dignitaires byzantins meurent également au combat. Et il y a quelques 25 000 habitants qui survivent et qui sont réduits en esclavage. Dans l'après-midi du 29 mai, Mehmet II entre dans la basilique de Sainte-Sophie pour remercier Allah pour sa victoire dans ce lieu sacré et symbolique. La basilique est d'ailleurs transformée rapidement en mosquée, mais Mehmet II décide de ne pas toucher aux autres églises. Le sultan décide, et pense assez rapidement à faire de Constantinople sa propre capitale et veut lui conserver quand même sa grandeur. Il veille ainsi à ce que les pillages ne s'éternisent pas. Il fait venir des immigrants de tout l'empire pour rendre à la cité sa splendeur antique. Il peut enfin déplacer sa capitale de la ville voisine donc d'Andrinople à Constantinople. Alors on a un dénombrement qui est fait, un recensement si préféré, qui est fait en 1477, qui nous informe sur le cosmopolitisme de la ville sous les Ottomans. Ainsi, la ville comptait 60 000 habitants en 1477, soit moitié plus que la population d'avant le siège. Parmi eux, on comptait 40% de non-musulmans, des Grecs, des Juifs, des Arméniens, ce qui montre que le repeuplement, où rien n'avait été laissé au hasard, avait pour but de créer une entité multireligieuse, même si l'élément musulman y dominait. Constantinople ottomane était devenue une cité plurielle, plus que la Constantinople byzantine. Et donc la Constantinople ottomane atteindra ensuite son apogée au XVIe siècle sous le règne du Soliman II le Magnifique. Et pour finir cette chronique, on peut dire que ce 29 mai 1453 marque un repère dans l'histoire de l'Occident puisque les historiens datent de cet événement la fin du Moyen-Âge. La Renaissance qui lui succède doit beaucoup aux savants et artistes byzantins qui, réfugiés en Italie, ont contribué à la redécouverte de la culture antique par les Occidentaux.
Date hyper importante, c'est aujourd'hui. Et
Ça tombe bien.
Merci beaucoup Jean-François.
De rien.
À tout bientôt.
Calade. La Méridienne.